Eh bien, bonsoir à tous. Effectivement, il ne faut pas parler trop près du micro, sinon on va se casser les oreilles. Je suis absolument ravi que vous soyez là, de vous accueillir à la galerie Artverse pour cette conversation ouverte qui réunit des professionnels et des acteurs de la finance au service du vivant, c'est-à-dire qui place la performance sociale et écologique au même niveau que la rentabilité financière. Avant d'introduire le sujet pendant 10 minutes, je vais laisser la parole à Louis, président de l'association Blockchain for Good, et ensuite à Stéphane, secrétaire général de l'association Ethereum France, qui nous co-organisons cette année. Louis, c'est à toi.
Merci Jacques-André, et bienvenue à tous. Ravi de vous accueillir donc, ce soir chez Artverse. Je ne serai pas long, mais juste pour présenter rapidement l'association Blockchain for Good, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. On est une association lucrative, on existe depuis 2018, et on s'intéresse à tous les sujets un peu blockchain, autour du développement durable. On essaie de promouvoir un peu tous les usages for good des blockchains. Et ça passe principalement par trois moyens d'action. Donc il y a toutes les infos sur notre site. Il y a le premier moyen d'action, c'est des rapports qu'on écrit historiquement. On a deux gros rapports, deux gros pavés de 500 pages à peu près, je crois, qui reprennent un peu tout l'écosystème. Donc sur toutes les verticales, du traitement de l'eau, à la logistique, au traitement des crédits carbone, etc., l'opinion financière. Ce gros rapport maintenant va être divisé en plusieurs petits cahiers. Donc on en a certains qui vont être finalisés dans l'année. C'est des projets qui sont en open collaboration, donc ça nous intéresse de collaborer. On est en collaboration un peu en continu, donc n'hésitez pas à manifester auprès des membres de l'asso. Le deuxième moyen d'action, c'est donc les événements, comme on fait ce soir. On fait quelques-uns par an. Il y aura une session dans 15 jours à Cannes, dans le cadre de SIC aussi. Je pense que Stéphane en reviendra. Le troisième moyen d'action, c'est une base de données qu'on maintient sur l'ensemble des projets blockchain, start-up ou plus gros projets, qui sont autour de l'écosystème for good. C'est une base de données qui est open, en libre accès. Vous avez sur le site, pareil, aussi en open contribution. Si ça vous intéresse de regarder un peu la base de données, si vous voyez des choses à corriger, des projets que vous connaissez qui ne sont pas référencés, pareil, n'hésitez pas à vous manifester auprès des membres de l'asso. Et voilà, donc sur ce, je passerai la parole à Stéphane. Merci.
Merci. Donc moi, je suis Stéphane, je suis secrétaire de l'association Ethereum France. On est aussi une association à but non lucratif, mais dont le but est de diffuser la connaissance et la connaissance des applications sur la plateforme Ethereum et autres blockchains du type EVM, de façon plus générale, sans spécifiquement sur le côté for good. Nous nous sommes importants d'aller dans toutes les directions. Pour ça, on a aussi des meetups, approximativement un par mois, donc par an, sur Paris, mais aussi de façon décentralisée. Mais surtout, l'association est connue pour organiser le THCC, Ethereum Community Conference, la plus grande conférence européenne autour de la blockchain et Ethereum, qui a lieu cette année dans deux semaines à Cannes, au Palais des Festivals. On est très contents, ce sera la plus grosse session, depuis le début de l'organisation. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Et on organise ça avec plein de speakers internationaux de renom, mais également des partenaires qui ont chacun potentiellement un moment à eux, un track. Il y a un token engineering, il y a aussi Token for Good qui organise une session à l'intérieur de THCC. Ce soir, je suis particulièrement heureux personnellement d'assister à cette présentation parce que dans ma vie professionnelle, dans ma vie professionnelle antérieure, avant de travailler dans la blockchain, j'étais dans l'économie sociale et civile. J'étais co-président d'une association en charge de développement de l'économie solidaire dans une région, en connexion avec la CRES régionale, dans le cadre du réseau MES Mouvement pour une économie solidaire. Et dans ce cadre-là, on a développé une nouvelle école complémentaire. On était en relation aussi avec l'antenne locale de France Active pour tout ce qui était développement d'une économie socialement responsable localement. Donc ça m'intéresse particulièrement de voir ce soir comment les acteurs blockchain et finance responsable, donc même si la finance solidaire et la finance responsable, c'est pas forcément exactement la même chose, on va voir les connexions, ça va être extrêmement intéressant.
Merci beaucoup Stéphane. Alors, comme vous ne le savez pas, une conversation ouverte, ça consiste à introduire le sujet, introduire le contexte, ce que je vais faire pendant les 10 prochaines minutes. Et puis ensuite, on va pouvoir échanger ensemble pendant à peu près une heure et quart avec un fil de questions qu'on a préparé auparavant. Alors, l'idée de faire se rencontrer les acteurs de la finance impact d'un côté et l'écosystème équivalent, leurs homologues d'un crypto de l'autre, vont faire que ces 10 petites minutes de contexte, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais des deux côtés, côté finance à impact et côté crypto, juste pour proposer très basiquement les fondamentaux avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors, je pense que les acteurs des professionnels de la finance connaissent moins la crypto que les professionnels de la crypto, la finance. Donc je vais me permettre d'introduire très très rapidement, encore une fois je dis, hein, j'enfonce les portes ouvertes, ce que c'est que une blockchain, un smart contract et un crypto-actif. Et je vais vous inviter d'ailleurs, pour ceux qui découvrent ces sujets, c'est possible, d'aller notamment au sous-sol regarder des vidéos d'acculturation qu'on a tournées avec l'un de nos partenaires, l'un de nos mécènes sur ces sujets. Et alors, sans plus attendre, donc une blockchain publique, une blockchain commune, c'est un grand livre numérique décentralisé, sécurisé, auquel quiconque peut participer pour écrire, pour effectuer des transactions, pour les lire, les vérifier, ou encore les sécuriser, le tout sans intermédiaire central. Toutes ces blockchains, publiques ou communes, elles mettent en œuvre un crypto-actif, un token. Pourquoi crypto ? Parce que c'est un actif numérique qui repose sur la cryptographie pour sécuriser les transactions et contrôler la création de nouvelles unités. L'innovation fondamentale rendue par ces fameuses blockchains, c'est de se mettre d'accord sur ce grand livre numérique décentralisé sans qu'un acteur central n'intervienne. On dit d'ailleurs des blockchains qui distribuent la confiance sur le réseau. Ok, mais alors concrètement, à quoi ça sert ? Ça permet de créer, échanger, tenir le registre décentralisé et infalsifiable de tokens, de crypto-actifs qui sont détenus en propre et pouvoir les échanger de pair à pair. Alors, je suis sûr que vous en connaissez plein. Il y a des tokens de paiement, vous connaissez les crypto-monnaies comme Bitcoin. Il y a des tokens de sécurité, c'est-à-dire qui représentent des actifs financiers, ça peut être des actions, ça peut être des obligations vertes par exemple, des parts de fonds. Ça peut être des tokens stables, on appelle ça des stablecoins. Je pense que c'est difficile de ne pas en entendre parler en ce moment, 250 milliards de dollars valorisés autour de ces stablecoins, donc ils sont adossés à un actif numérique qui représente une monnaie fiable, du dollar ou de l'euro. On a des tokens de gouvernance qui vont servir à voter sur un projet décentralisé. Voilà, on a différents types de blockchain, dont cette blockchain dite de deuxième génération Ethereum, qui permet de programmer des smart contracts. Alors, un smart contract, c'est un programme informatique qui est répliqué sur tous les nœuds d'une blockchain et qui va s'exécuter exactement tel que programmé, sans possibilité de l'arrêter. Pour vous donner un exemple, si un agriculteur souscrit une assurance paramétrique contre les ouragans et qu'il y a effectivement un ouragan, il est remboursé automatiquement. c'est pas un cas fictif, hein, ça existe déjà, ce type d'assurance paramétrique. Donc l'intérêt de ces contrats, c'est qu'ils sont autonomes, automatiques, et que leur exécution ne passe pas par un tiers de confiance pour garantir la validité. Alors bien sûr, on n'est pas des technophiles, hein. On sait que les blockchains, ce n'est pas une solution miracle, et comme n'importe quel outil, ça dépend avant tout de l'usage qui en est fait, et en tout cas, ça permet d'expérimenter de nouvelles formes d'organisation plus horizontales, dont la gouvernance est plus ou moins décentralisée. Et notamment, dans le domaine de la finance à impact, ça ouvre des perspectives assez inédites. Alors, j'en profite pour rebondir sur ce thème qui nous réunit aujourd'hui, pour vous donner aussi une définition. Je vous ai dit, j'enfonce des portes ouvertes. Qu'est-ce que la finance à impact ? Donc, c'est une stratégie, j'ai repris la définition de l'Institut de la Finance Durable, d'investissement au financement qui vise à accélérer la transformation juste et durable de l'économie réelle en apportant une preuve de ses effets bénéfiques. Donc elle fait appel à trois principes piliers de la démarche. L'intentionnalité, c'est la combinaison d'une performance écologique et sociale et d'une rentabilité financière. L'additionnalité, qui revient à montrer que l'impact généré par le projet n'aurait pas existé en l'absence de l'investissement dans le projet. Et puis, le troisième pilier, l'impact, mesurer l'impact, l'atteinte de ses objectifs environnementaux et sociaux, notamment à travers des cadres de référence, comme les ODD par exemple, et d'autres, on pourra en parler. Alors, toujours, et je vais vraiment être trop long, aujourd'hui, une petite précision sémantique à propos de la finance à impact qui est issue de la finance traditionnelle et peut-être de ce mot que vous avez entendu parler, de cette appellation que vous avez entendue de regenerative finance ou finance régénératrice, comme on l'entend depuis 2-3 ans dans le monde de la crypto. Aujourd'hui, ce soir, on n'est vraiment pas là pour opposer la finance traditionnelle d'un côté et la finance décentralisée de l'autre. Déjà parce que la dichotomie finance traditionnelle d'un côté et finance décentralisée de l'autre, c'est beaucoup plus complexe que ça, il y a plein de nuances entre les deux. Et on va aujourd'hui parler justement de finance au service du vivant, que ce soit dans le domaine de la finance traditionnelle ou dans le domaine de la finance décentralisée. C'est-à-dire que si on s'intéresse à ce diagramme, tout le spectre d'approche en matière de durabilité de Miret qui date de 2007, qui s'applique autant à l'agriculture qu'à la finance, on a d'un côté une finance qui peut être, prononcer le mot, dégénérative ou extractive, dont l'intérêt premier, c'est la rentabilité financière. Alors ça existe à la fois dans la finance traditionnelle, et ça existe aussi, bien évidemment, dans la finance décentralisée. Et puis, on a la finance verte, dont l'objectif est d'atténuer les externalités négatives de cette finance. Ça marche aussi à la fois pour la finance traditionnelle et pour la finance décentralisée. On a ensuite la finance soutenable, responsable, sustainable finance, au centre, dont l'objectif est la neutralité. Ça veut dire qu'on veut éviter les impacts négatifs. Et puis on a un autre type de finance, comme on utilise plutôt le vert, là, une finance dite restaurative, et puis enfin une finance régénérative. Alors si on voulait placer la finance à impact aujourd'hui, elle se situerait entre la finance soutenable et la finance restaurative. Et comme je vous ai dit, depuis 2-3 ans, dans l'écosystème crypto, pour ceux qui y sont familiers, on parle beaucoup de finance régénérative ou regenerative finance. En fait, il s'avère, deux petites anecdotes, il y a 2 ans, on a fait un side event pour être ici, l'Académie du Climat, avec Jeanne Bock notamment, on a réuni 500 personnes, et on avait dans notre agenda une conversation ouverte qui s'intitulait regenerative finance, et des économistes qui nous ont contactés, qui nous ont dit, mais votre regenerative finance, ce n'est pas du tout régénérative. Nous, on fait de l'économie régénérative, on est des économistes, et la régénérative finance dont vous parlez, elle n'est pas régénérative au sens où nous nous entendons. Premier point. Deuxième anecdote, c'est que ce mois-ci, il y a une chercheuse en Australie, qui s'appelle Kate Cardona, je pourrais partager tes références avec vous, qui a écrit un papier qui s'appelle « Une évaluation des prétentions régénératrices du mouvement REFI de Web3 ». Et grosso modo, sur les 40 projets qu'elle a étudiés à REFI, il y en a 3 qui peuvent, avec une méthodologie un peu scientifique, se revendiquer d'être des projets à REFI. Je ne dis pas ça pour casser du sucre sur le dos de la finance décentralisée. Je dis juste que d'un point de vue sémantique, il faut savoir se situer. Et que finalement, on pourrait dire qu'il y a une finance décentralisée DGEL, green, sustainable ou régénérative, et que l'apanage de ces projets, c'est pas ce qu'on s'appelle régénérative finance dans la crypto, qu'on fait vraiment du régénératif. Voilà. C'était juste pour resituer en tout cas ces quelques éléments sémantiques, puisqu'en plus, on a la chance d'avoir avec nous des acteurs de la finance responsable, des acteurs de la finance impact, des acteurs de la finance responsable, l'association, des chercheurs avec nous ce soir. Et puis, on a aussi la chance d'avoir bon nombre de ces acteurs français dans le domaine des blockchains, on va dire responsable ou impact, je ne sais plus trop comment les dire, les appeler maintenant. Donc, vous avez la liste ici, donc Carbon, Scosial, Dogo, je vous laisserai lire, Erable, ce qui est là. Inuk, Kinest, Nina et oui, Rifundia, toutes les personnes, et ils sont tous là. Et on va pouvoir donc échanger avec eux sur la finance responsable, la finance à impact et leurs homologues dans la crypto. Alors, avant justement de poser une première question et d'initier cette conversation, je vous rappelle quelques consignes très rapides. La première, c'est que, s'il vous plaît, il faudrait parler dans le micro, parce qu'on fait une captation audio, l'idée étant de pouvoir partager ensuite cette conversation avec le plus grand nombre, que ce soit pas un lointain souvenir dans quelques semaines. Quand vous prenez la parole, s'il vous plaît, essayez de dire qui vous êtes et l'organisation que vous représentez, peut-être une fois, on n'est pas obligé de le répéter à chaque fois, ou pas d'ailleurs, c'est comme vous voulez. Et puis, essayez également d'être didactique. Qui vous soyez, côté finance impact, ou côté crypto, et si jamais vraiment on utilise des mots de vocabulaire qui sortent un peu d'ordinaire, n'hésitez pas à lever la main, on fera un stop, on essaiera de définir, je ne sais pas si on parle de DMRV ou d'Oracle, que personne n'a introduit le sujet. Ça vaut le coup en tout cas d'essayer de jouer le jeu, d'être relativement didactique et d'essayer d'être compréhensible. Voilà pour cette courte introduction. Donc, je vais vous proposer de vous en parler d'une première question. Alors, ça peut être celle-ci, mais ça peut être aussi une autre question. En tout cas, elle s'adresse à l'ensemble des acteurs de la finance à impact et de la finance décentralisée pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, pour vous donner quelques chiffres aussi. J'ai lu ça. La finance à impact en France, en 2021, c'était 4 milliards d'euros. En 2024, c'était 45 milliards. Alors que les fonds ISR, c'est 450 milliards d'euros, 750 milliards aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'il y a encore une belle évolution entre 4 milliards et 40 en 4 ans. En revanche, effectivement, on est pour l'instant sur des proportions qui sont relativement faibles par rapport aux fonds ISR. Ma première question, elle est simple, c'est quels sont les freins aujourd'hui ou les barrières aujourd'hui au développement de cette finance à impact. Et alors, on va pouvoir avoir des réponses des acteurs de la finance responsable ou des acteurs de la finance à impact, mais on pourrait aussi poser la question côté acteurs de la finance décentralisée. Qui se lance et qui veut répondre à cette première question ou engager cette conversation?
Très rapidement, donc mon nom est Jeanne Bloch et j'ai lancé le projet Cosial que j'ai présenterai plus tard sur la finance décentralisée à impact. Le problème principal, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent. Bon, je pense que tout le monde ici connaît les chiffres. Il faut beaucoup d'argent. Et pourquoi il n'y a pas beaucoup d'argent? Parce que ça ne rapporte pas assez d'argent. Et c'est pour ça qu'une de mes convictions, c'est que la finance décentralisée est un lieu d'innovation potentielle pour répondre à cette question.
Oui, Anaïs, je suis la cofondatrice d'Erable, une boîte qui fait de la finance en partage de revenus tokenisée et non tokenisée, je ne sais pas tant que c'est We Do Good, une deuxième marque, qui est pas ici. Pour compléter ce que tu dis, je suis assez d'accord sur la rentabilité, je ne dirais pas qu'il n'y a pas assez d'argent, je dirais que dès lors que l'investissement impact est vu comme une bonne action, un bon, ben, en fait c'est un frein énorme, enfin, c'est un obstacle énorme à des investissements plus massifs, parce qu'on ne met pas en bon, on met en considération d'investissement. Donc il y aurait un vrai sujet sur la valeur qu'a cet impact et comment la partie valorisation d'impact, on pourra en parler plus tard précisément, j'ai une autre question à ce sujet. Et pour donner un petit peu de valeur, je pense qu'il y a des sous-problèmes, on peut en parler, on a commencé, sur la traçabilité déjà, pour déjà l'inscrire, l'écrire, le voir, le matérialiser, qui est déjà un sous-problème de valorisation. Et puis un problème un peu opposé qui est plutôt quand on regarde les activités qui ne sont pas impact, c'est tellement gratuit et du coup infini parfois plus enfin difficile d'atteindre ces rentabilités-là avec des produits impact, tellement gratuit d'être dégen. Qui a potentiellement un sujet même de réglementation, enfin de considération aussi de ce qui est de la description pour rééquilibrer un petit peu l'ordre des choses, selon moi.
Bonjour, Thaïs Drozdowski, la cofondatrice de INUC. Donc, nous, notre métier, c'est de tokeniser des crédits carbone français et locaux, c'est déjà vu pour beaucoup d'entre vous. J'ajouterais à ça, pour moi, un sujet de temporalité. J'ai l'impression que la finance traditionnelle a une temporalité qui n'est pas la même que la temporalité, en tout cas, des projets que nous, on va financer. Je ne suis pas forcément d'accord sur la partie rentabilité. Nous, ça nous arrive d'accompagner des projets qui, sur un temps plutôt long, on parle plutôt de 15-20 ans, ont des taux de rentabilité tout à fait honnêtes et finançables. Mais dans ces cas-là, il ne coche pas une deuxième case qui est la taille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a un taux de rentabilité à très long terme, 15-20 ans, il faut être très gros. On ne peut pas être petit et long terme, ce qui est un peu dommage, parce que justement, c'est tout l'intérêt de la décentralisation, c'est qu'on peut faire cet effet multiplicateur. J'ai l'impression que c'est aussi un manque et un frein, du coup, au fait de pouvoir financer plus massivement l'impact jusqu'au même moment.
Je continue du coup. Jani, donc fondateur de Kines, une plateforme d'investissement spécialisée du coup dans les entreprises de la climatech, on est ici en action. Je pense que c'est un sujet autour de la mesure d'impact et de la nomenclature de qu'est-ce qu'on qualifie en fait d'impact. Donc tout à l'heure tu parlais donc qu'est-ce qu'on appelle regenerative finance. Tu parlais aussi des chiffres autour de les fonds ISR donc à 700 milliards et la finance impact à 40 milliards. Je ne suis pas sûr qu'ici, en fait, tout le monde saurait définir la différence entre les fonds ISR et la finance impact. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a un vrai sujet sur, en gros, que les gens sont plus ou moins perdus de savoir si ce qu'ils financent, c'est vraiment d'impact ou pas. Donc, ISR, c'est censé être, for good, mais en fait, on se rend compte qu'il y a pas mal de fonds ISR qui financent notamment les industries pétrolières, notamment des scandales qui ont été rapportés l'année dernière par des journalistes, notamment du Guardian là-dessus. Et du coup, en fait, concrètement, si on veut qu'il y ait. Je pense qu'il y a pas mal de gens. Je pense que le sujet, c'est notamment, il y a souvent cette idée, ce chiffre des 6 milliards d'épargne disponibles en France, etc. Donc, il y a beaucoup de personnes qui seraient prêtes à investir potentiellement dans ce secteur-là, mais en fait, il y a une sorte de jungle d'offres, de plateformes, de nomenclatures, de projets entre Impact, ISR, Green, Sustainable, etc. Et donc, il y a peut-être un manque de visibilité sur, notamment, concrètement, qu'est-ce qu'on finance et comment on rend tangible, en fait, l'impact concret des projets qui sont financés.
Thank you.
Blanchard, président des acteurs de la finance responsable. Moi, je représente la finance traditionnelle, plus classique. Et donc, pour rebondir un petit peu sur ce qui vient d'être dit, la différence notable quand même entre ce qu'on a dit, la l'ISR ou l'impact, c'est déjà qu'on ne va pas s'adresser aux mêmes typologies d'entreprises. En fait, l'ISR, c'est de grandes entreprises cotées, et c'est souvent de fonds d'investissement cotés, alors que la notion d'impact sur de l'univers coté, elle est compliquée, et qu'on va être plus sur des entreprises qui sont des TPE, PME, et c'est du coup quels indicateurs on va utiliser en fait pour une mesure. Et ça, c'est le vrai sujet. Il y a le sujet de la mesure, quels indicateurs on prend, comment on les suit, comment on assure leur, on va dire l'authenticité même de ce suivi d'indicateurs. Et puis aussi, c'est concrètement, enfin, j'étais ce matin sur une table ronde sur la finance régénérative, sur le général, machin, etc. Il y avait deux fonds d'investissement qui étaient là. Et en fait, c'est aussi de prendre en considération que ce n'est pas évident de sourcer des entreprises qui peuvent prétendre être impact. Et donc, c'est comment est-ce qu'on peut aussi évoluer le secteur financier, mais aussi des entreprises, pour qu'elles puissent se saisir de ce sujet et potentiellement se dire « je peux devenir une entreprise impact ». Donc, il y a un petit peu des deux qui... Donc, ce n'est pas la même dimension de taille quand on parle d'ISR ou d'impact. On passe dans deux mondes un peu différents.
Vas-y. Bonjour à tous, on est Oscar Dumont, je suis CEO et cofondateur de Doogo. Nous, on est une plateforme de tokenisation pour mettre en relation les développeurs dans l'énergie verte et des investisseurs du monde entier. Donc, nous, on est plutôt sur le vert dans le diagramme, donc on n'a pas encore arrivé au sustainable. C'est vrai que c'est très compliqué, en fait, plus on avance vers le régénératif, plus ça va être compliqué de tracer et de mesurer la performance extra-financière, c'est ce qu'on recherche. Et aujourd'hui, nous, personnellement, tout on sait le faire dans le green et dans le renouvelable, parce qu'on sait mesurer, par exemple, le CO2 équivalent émitté. C'est un standard qu'on utilise, que pas mal de gens utilisent aussi. Et pour ouvrir une nouvelle branche, pour aller financer des nouvelles entreprises dans de nouveaux secteurs, bah, il faut que tout le monde soit d'accord qu'effectivement, le CO2 équivalent émitté ou la performance sur le vivant en général, on est bien calculé et qu'on parle de standards autorisés par tout le monde. Donc moi, je pense que c'est pour ça qu'il y a moins d'argent encore dans la finance régénérative. On n'a pas atteint un stade de maturité assez poussé. Dans le green, on commence à être plutôt bon. Petit à petit, j'espérais qu'on va réussir à tomber d'accord sur les standards pour qu'on puisse financer et surtout reporter toutes les performances extra-financières des actifs les plus régénératifs pour les gens.
Oui, merci. Moi, c'est Eric Monceau. Moi, je suis cofondateur et CEO de Wifondia et Refondia. Nous, on est une plateforme de financement à impact et on utilise la tokenisation justement pour répondre à deux enjeux. Un, à réussir à financer les petites entreprises et aussi les coopératives qui ont un accès difficile à ces marchés. Il y a des solutions non dilutives. On utilise des obligations à impact, des titres participatifs indexés sur des critères ESG. Et le deuxième enjeu, c'est du financement durable. Comment on arrive à révéler l'extra-financier? Je disais à l'instant Oscar, ce qui est très important, c'est comment l'extra-financier se transforme en valeur. Aujourd'hui, ma compréhension, ou notre compréhension plutôt, de quels sont les points de blocage, c'est une question pour nous, à la fois de référentiel, de changer de référentiel, parce que ce qui est, on n'intègre pas du tout les externalités négatives. Par des externalités négatives, Oscar en a parlé à l'instant, c'est typiquement les impacts sur. On transforme ça en crédit carbone, mais en gros, c'est je sais quel est le carbone, il y en a d'autres qui font de la dégénérative économie, et puis ils en dépendent beaucoup, et puis ils en consomment beaucoup. Ça, c'est le premier point, et le deuxième point qui a été évoqué par Nick, c'est à mon avis une question de durabilité, c'est le temps, effectivement. Nous, nos investisseurs, ce sont pour une partie, ce sont des particuliers. Ils n'ont pas le temps d'attendre. Ils font de l'investissement court terme. Et ils cherchent de la rentabilité. Tous les investisseurs cherchent avant tout de la rentabilité. Comment arriver à leur montrer qu'un investissement est rentable? Et sur dans le projet, je dirais, à impact, ça c'est difficile pour pouvoir intégrer effectivement ces externalités négatives et à créer de la valeur supplémentaire, de la survaleur, comment on transforme cet extra-financier. Et le deuxième point, ce que disent souvent effectivement cette fois-ci les investisseurs plutôt institutionnels, eux ils trouvent pas les projets d'impact qui sont rentables. Ah oui, on n'a pas les données, c'est pas bon, c'est pas rentable en fait ce qu'ils font. Il faut qu'ils changent le modèle financier aussi. Il faut qu'ils intègrent cette extra-financier. Ce que je veux dire, c'est que ça joue dans les deux côtés. Et pour les émetteurs, pour les entreprises, il y a une vraie difficulté, c'est que tous ces projets et de la finance durable, ça coûte beaucoup plus cher. C'est beaucoup d'indicateurs à capter, à fournir, des reporting dans tous les sens, qui coûtent très cher. Ça enrichit, enfin, moi j'ai coutume de dire avec les consultants, tous les cabinets de fondage de Postel, mais bon, on a une chance, il me semble que la réglementation évolue, donc cet extra-financier, on peut aujourd'hui le mesurer et avoir une certification auprès de CAC, le commissaire aux comptes. Ça peut être intéressant pour poursuivre.
Oui, je complète un tout petit peu sur ce que tu viens de dire, mais c'est surtout pour réagir aux deux points précédents. Tu as un peu réagi, mais c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal, moi, avec cet argument de « on ne trouve pas les problèmes ». J'ai l'impression que c'est aussi parce que les grilles de lecture un peu de finance traditionnelle, elles n'évoluent pas, comme tu viens de dire, ou peu. On s'attend à avoir tous les indicateurs classiques qu'on a quand on regarde les indicateurs financiers, et pour les indicateurs extra-financiers, il existe quand même aujourd'hui, ça fait 12 ans qu'on évolue dans ce secteur, il existe aujourd'hui quand même beaucoup de standards, beaucoup de choses qu'on est capable de regarder et d'observer. Mais la réalité, c'est que on demande au projet à impact en fait, de cocher toutes les cases d'un projet classique et puis d'en cocher encore plein d'autres sans prendre en compte une version un peu plus holistique en fait, de la valeur qu'il apporte. Et je trouve que par exemple, si on parle juste même pas de la rentabilité, si on parle juste du sujet de la taille, aujourd'hui, la taille, c'est un sujet. Il y a énormément de projets qui sont rentables, mais qui peuvent démontrer de manière très facile qu'ils sont dans la partie restaurative, voire régénérative. Très facile, en tout cas, on est capable de le démontrer. En fait, ils sont juste trop petits. Et par définition, ils vont rester petits. Parce que s'ils deviennent trop gros, c'est le moment où il va y avoir un impact sur la biodiversité, etc. Enfin, par exemple, sur le sujet de taille, je trouve qu'on pourrait se poser la question du côté des financeurs traditionnels, et du côté de la finance à impact, je sais que vous l'intégrez à vous, mais de pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas cette question de manière un peu plus précise, de comment est-ce que le publicatement peut être fédéré, c'est-à-dire que j'ai un truc, etc. C'est un des exemples pour moi qui me fait dire que l'évolution, elle doit aussi venir un peu de la finance traditionnelle. Du coup, je passe au micro, mais ça ne sert à rien.
Je ne sais pas si on peut tout de suite sauter jusqu'à la fin de la discussion et dire que si peut-être on essayait de, enfin en tout cas c'est une de mes motivations, de pouvoir donner une valeur financière à ces preuves d'impact, et donc le fait de mettre ces preuves d'impact dans une forme numérique qui peut-être un jour pourrait exister dans le cadre d'un marché qui sera un marché de crédit ou de certificat numérique nature ou carbone, ça existe déjà avec toutes les problèmes que ça a présenté, mais sur à partir desquels on apprend. Donc la question de pouvoir monétiser ces preuves d'impact, de pouvoir les échanger, d'avoir des règles pour ça, est-ce que selon vous c'est une solution pour avancer sur cette idée de donner une valeur financière à l'extra-financier?
Je l'ai présenté, donc je ne vais pas refaire. C'est avec ma casquette économie, sociale et solidaire locale que je vais répondre. Parce que ça, c'est un sujet qui m'a beaucoup causé à cette époque. C'est que, en effet, pour l'instant, tout ce qui est impact n'est pas valorisé, si ce n'est moralement, par les acteurs. Et donc tout ce qui est impact global, à distance, qui n'a pas de matérialité proche, est difficile à faire valoriser, selon moi. C'est pour ça que tous les projets
que j'ai pu, ayant eu beaucoup de traction par rapport à leur impact réel sur les projets locaux. Et que du coup, c'est au niveau de la communauté locale et des financeurs locaux qu'il est intéressant de faire une synergie pour faire améliorer les projets. Et donc, c'est juste une petite pierre d'un ancien acteur local sur ce projet.
Et donc, alors, j'ai une question. Donc, ça veut dire que comment est-ce qu'on fait pour faire évoluer tout ça? On est beaucoup en dégénératif. Là, le green, tu disais, Oscar, avance. Qu'est-ce qu'on fait? On taxe plus ici et on incite fiscalement de l'autre côté. Je ne sais pas si c'est aussi simpliste. Comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on pousse ou on incite ces capitaux, plutôt dans cette finance au moins centrale, ce qui n'est pas.
C'est la question. Un premier élément de réponse, c'est aussi pour revenir sur le sujet de la tête des projets. J'ai l'impression qu'en gros, le gros de l'économie aujourd'hui, 90-95%, clairement, on est dans le conventionnel. C'est les grosses entreprises qui essaient de faire un peu de green, qui essaient d'améliorer un peu leur impact, mais on les laisse à la marge. Et en gros, tous les projets qui sont à partir de Sustainable, c'est des petits projets. Enfin, c'est des startups, c'est des nouvelles innovations qui arrivent sur le marché pour disrupter en fait, l'économie classique. Et donc, ce qui se passe, et ça répondra, je pense, en partie à la question, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, les gros acteurs financiers financent des projets établis, des gros projets, qui restent du coup dans le conventionnel et éventuellement dans le green, mais du coup, ne peuvent pas financer les projets sustainable, restaurative, réparative, parce que c'est des petits projets du coup, c'est trop risqué, parce qu'ils sont trop petits, il n'y a pas assez de capitaux à mobiliser, donc du coup, c'est pas rentable pour les nombreux institutionnels, les assureurs, etc. Donc, il y a un sujet de taille, d'échelle aussi, c'est-à-dire comment on fait pour que les petits projets qui existent depuis quelques années, qui arrivent sur le marché, passent rapidement à l'échelle pour attirer aussi plus de capitaux. Voilà en tout cas ma contribution sur la partie taxation. Quelqu'un d'autre veut prendre le relais.
Bonsoir, merci William. Je suis en co-progression. Moi, je viens plutôt de l'ESS et du secteur des ONG. Aujourd'hui, je travaille sur des enjeux de plaidoyer et de finance durable, justement, pour des ONG ou des projets impact. Moi, de mon expérience d'entrepreneur, en tant que gérant d'une coopérative, ce que j'ai vu, c'est, pour revenir sur ce qui a été dit, l'absence de la mesure du coût caché. Moi, je vendais des salades, j'étais épicier dans les circuits courts bio, etc. Une salade bio, ça peut se vendre 50, 82 euros. En fait, une conventionnelle, on l'achète 1 euro. En fait, la réalité, c'est qu'elle coûte 4 euros à la société. Par contre, à la caisse, on paye 1 euro. Et donc, tous ces coûts cachés, est-ce que c'est imaginable demain qu'ils soient intégrés quelque part dans le bilan, dans le résultat comptable?
Oui,
bah,
c'est bon. Moi, pour avoir pas mal réfléchi, et ça va avec, en fait, pour valoriser de l'impact et potentiellement le certifier, enfin, potentiellement, en tant que faire un token, etc., il faut en effet d'abord avoir une comptabilité pour les chiffres. Il y a pas mal de, pour le coup, en train de travailler complet, il y a pas mal d'initiatives qui sont montées, je pense notamment à la comptabilité de capital, enfin, de capital, ou en gros, comptabilité financière traditionnelle. À laquelle on adosse tout s'adosse, la comptabilité du naturel et du social qui est réalisé par le projet. Ça permet d'avoir des vrais chiffres, etc. Il y a pas mal d'extensions, enfin, moi j'ai pas mal lu le papier qui est dans des modèles au regard de pas mal des frontières planétaires, enfin des données économiques pour avoir des vraies catégories, une certaine catégorisation de l'impact, soit environnemental ou social. Et des standards de mesure un petit peu internationaux partager selon les différences d'impact. Moi, je suis assez d'accord là-dessus. Après, pour revenir à la question du financement de ça et de comment on fait voir cette valeur, même si on la mesure, même si on alors même si quelqu'un aura les chiffres peut-être un jour, cette valeur-là, selon moi, elle est très compliqué à tangibiliser en fluidité. Enfin, moi, j'avais pas mal essayé de faire ça, d'essayer d'adosser au produit financier sa rentabilité financière traditionnelle et pour les investisseurs de leur visibiliser du fluidité et de l'impact positif au global adossé. Et ça rejoint énormément ce que tu disais de ton expérience là-dessus. Moi, mon client sur des projets financiers où j'essaie de faire ça vraiment de, sur des reportings, que ce soit les deux indicateurs vraiment côte à côte. Seuls les investisseurs déjà un petit peu sensibilisés parce que c'est du local, parce que ça touche personnellement tous les jours, ou parce que c'était déjà sensibilisé à l'impact, en réalité sont touchés, enfin ont un vrai intérêt pour l'indicateur. Les autres, malgré ma hypothèse initiale qui était que ça allait les intéresser de voir cette corrélation ou cette décorrélation entre rentabilité et impact réalisé, d'ailleurs, en réalité, c'était. De mon expérience, j'ai pas énormément de cas d'usage. S'il y a un souci sur la société, c'est toujours sur la rentabilité financière qu'on va se pencher. Toujours. Évidemment, sur les petits projets, même sur les petits projets financiers, on va se pencher sur pourquoi il ne fait pas d'argent, parce que l'on ne pourra pas, quand ça ira pas, pourquoi il ne fera pas d'impact. Et même s'il en fait et que ça ne va pas bien dans la société, c'est toujours vers la partie financière que pour l'instant ça se dirige. Et ça, pour moi, c'est la vraie petite dichotomie de comment on arrive à les mettre sur la même pied d'égalité. Et c'est très compliqué. Enfin, pour moi, aujourd'hui, c'est là où moi, ça s'est arrêté. Enfin, ça ne s'est pas arrêté. Mais c'est là où moi, mon hypothèse initiale, ça va co-valoriser les deux. Alors, cette corrélation entre l'impact positif et rentabilité, c'est un petit peu écorché à ce moment-là.
Parce qu'en complément, parce que j'admire ton optimisme, mais moi j'ai entendu que de l'exemple de la salade, où est-ce qu'on parle des coûts, où est-ce qu'on met les coûts négatifs sur le bilan. Et en fait, c'est comme ça que j'ai compris. Et il y a 20 ans déjà, quand il y a eu la réglementation sur le recyclage des produits électroniques, qui est une réglementation européenne, c'est venu du fait que les collectivités locales en avaient ras-le-bol de devoir payer pour recycler les produits. Donc en fait, le coût, il a été reporté en fait sur une taxe qui arrivait sur le consommateur. Donc oui, c'est une taxe, mais c'est pas un truc gentil, personne va vouloir comme ça. Et donc peut-être que les entreprises ont commencé à prendre conscience à ce moment-là et à faire un peu de recyclage de produits électroniques, mais c'est venu des collectivités locales qui en avaient ras-le-bol, et c'est pareil sur l'histoire des pollutions des sites, etc. Donc c'est de la réglementation. Et de la même façon que moi je suis pour les taxes. Enfin, entre, non, mais pas moi en fait, je l'ai entendu dans toutes ces réunions en fait, et les taxes et les réglementations pour que ça avance.
Je voudrais juste illustrer un petit peu pour dire que la complexité des modèles économiques, effectivement, je pense qu'on commence à prendre en compte la notion des coûts cachés. Et le 20 juin, il y a quelques semaines, je ne me souviens plus la date exacte, mais la Banque de France a lancé un groupe de recherche justement sur comment intégrer la valorisation, donc la contribution de la régulation, de la fonction de régulation de la nature dans les modèles économiques. Parce que justement, ils commencent à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui déconne un petit peu, c'est notamment notre dépendance qu'on a à l'utilisation des ressources pour vivre et que ces fameux coûts cachés qu'on n'intègre pas. Et donc, ils sont en train, là, pendant qu'on se parle, de lancer ce consortium de recherche pour essayer justement de craquer un peu ce modèle. Est-ce qu'ils vont y arriver ou pas? On ne sait pas, parce que même eux sur scène, ils étaient un peu en panique en disant c'est hyper compliqué. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a cette dimension aujourd'hui de l'impact indirect, mais de la gestion des risques systémiques que ça engendre dans l'économie si jamais on est sur cet effondrement, et donc d'où l'intérêt d'aller sur ce régénératif. Et effectivement, de craquer cette notion de coût caché, de valeur qui aujourd'hui on ne donne pas une juste valeur à tous nos systèmes industriels de production, etc., parce qu'on ne donne pas de rétribution financière à toutes ces contributions de la nature aux humains.
Oui, je pense, bonjour. Je travaille pour l'étape de dernièrement bénévole l'Objet Favode. Merci, j'attendais d'ailleurs pour l'organisation de ce meet-up. Je pense que le sujet aussi, tu posais la question, comment on fait pour passer justement de bruit à de dégène à régène, je pense qu'il y a le portage politique. Il y a des groupes politiques aujourd'hui qui réfléchissent à potentiellement supprimer la flat tax, donc les 30% crypto, si on réinvestit dans notamment de l'économie réelle, qui s'appelle ça. Qu'est-ce que l'économie réelle? On pourrait peut-être aussi réfléchir à exonérer cette flat tax, ou du moins la diminuer si on investit dans des projets à impact. C'est juste un sujet que je pose là et ouvert à discussion.
Eric, pour ajouter un point, comme tu peux
peut-être on va repartir de l'exemple de l'agriculture, parce que c'est un monde que je connais bien. Moi, je suis actif agriculteur et j'ai encore un pied dans l'agriculture. Le problème, c'est un agriculteur, par essence, il va séquestrer du carbone dans le sol. C'est un problème d'actif, son patrimoine, sa terre, a une valeur. Et si demain, elle n'est pas régénérative, ça va poser un problème. Ça va la valeur de la valeur de l'actif. Si on a le problème des crédits carbone aujourd'hui, qui sont des externalités négatives, on transforme en dette, on ne transforme pas, c'est une dette pour les entreprises qui en ont besoin pour compenser. L'agriculteur qui séquestre la tonne de carbone, elle est bien dans son sol, il va vendre un crédit carbone, mais dans son l'actif en lui-même, sa réserve de valeur, en fait, son patrimoine, qui est la terre, elle ne va pas augmenter en termes de valeur. À la limite, on ne va pas savoir si elle est mieux dépréciée qu'un autre à côté qui a bien fait son travail, qui a bien mal fait son travail par rapport à lui. Ce que je voulais dire, donc il y a une vraie question sur cette économie, c'est à la fois une question à qui on fait payer effectivement cette compensation, mais c'est toute la dévalorisation des actifs qui se joue. Et c'est l'inquiétude qu'ont effectivement la Banque de France ou les acteurs, c'est aujourd'hui tous les actifs, les entreprises, les bâtiments, tous ces actifs-là, sont en train de perdre de la valeur dans l'économie de demain. Si effectivement il y a un dérèglement climatique fort, s'il faut l'assurer beaucoup plus et ça se casse très très vite parce qu'il y a un ouragan, il y a une vraie difficulté sur l'actif, la valeur de l'actif. Et donc, ceux qui font bien leur boulot, il faudrait qu'ils puissent, dans leur actif, pas être dépréciés. Par exemple. Mais ça joue des deux côtés. À la fois, comment on met dans l'actif, à la fois de l'émetteur, et que ça se trouve aussi sur l'actif, de celui qui va l'acheter pour compenser. Peut-être des deux côtés.
C'est quasiment ce que je voulais dire. Donc moi, je suis à Stanislav, je suis par rapport à vous, je suis enseignant-chercheur, et je travaille sur tous les aspects de développement durable, de décroissance, de croissance zéro, et aussi de crypto-monnaie. C'est pour ça que je suis venu à l'invitation d'une de mes étudiantes. Et donc, par rapport à vous, j'ai une vision un peu plus macro, et j'ai beaucoup travaillé sur la politique monétaire verte, on va dire, et c'est un tournant qui a été pris, effectivement, depuis un grand discours de Marc Carney, qui est un ancien gouvernement. Je crois que c'est même Marc Carney qui a fait le ministre du Canada. Il était gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre. Et en fait, c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire que la politique monétaire verte, telle que se pense aujourd'hui, je dirais que c'est de la soutenabilité faible, en quelque sorte, qui tend plutôt du côté gauche de ton graphique, parce qu'elle a justement, comme tu l'as dit, une approche par les risques. Et en fait, elle va d'abord considérer qu'il y a un risque, comment dire, un peu systémique du réchauffement climatique ou autre, sur les actifs financiers traditionnels, en fait, et pas que financiers. Et donc, c'est à travers cette vision un peu étroite qu'elle va aborder ensuite une éventuelle politique monétaire verte, entre guillemets. Et du coup, là où est le but, et c'est la question que tu as posée au début, quels sont les freins à ces fameux changements, dans le cas des banques centrales en général, là où ça pose problème, c'est la définition même de ce que c'est qu'un actif vert. C'est ce qu'ils appellent la taxonomie verte, et ils sont depuis maintenant une dizaine d'années en train de réfléchir à quel niveau de granularité aller, qu'est-ce qu'un actif vert, pas vert, quels sont les coûts cachés à prendre ou pas à prendre, et du coup ça bloque complètement cette vision faible déjà de la politique monétaire. Sachant qu'il y a déjà des économistes qui ont pensé à d'autres visions de la politique monétaire qui seraient plus vert foncé, qui seraient plus dans la partie droite de ton graphique. Voilà, je voulais juste le mettre ça. Mais enfin, voilà, tous les deux, vous l'avez dit déjà.
Ça ressemble à quoi une politique monétaire
vert foncé? Là, ça va vous dérouter de votre débat, évidemment, c'est un niveau beaucoup plus macro. Mais alors, j'ai la chance d'avoir un fils qui fait aussi des études d'économie, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quelle influence il a dessus. Et il se trouve qu'il a écrit un mémoire sur la politique monétaire verte, du coup, je l'ai lu. La partie vert clair, il la présente bien, c'est celle que je maîtrise bien. Par contre, la partie vert foncé, je dirais que c'est quelque chose d'un peu révolutionnaire. Pour résumer un tout petit peu, je dirais qu'il explique qu'il faut par exemple changer de paradigme, qu'il faut par exemple revenir à un circuit du trésor direct, où la Banque centrale ne rachète pas les titres sur le marché secondaire, mais finance directement le budget de l'État, dans le but que l'État puisse lui-même déjà investir. Mais bon, ça c'est hors la loi, on va dire, dans l'état actuel des traités des lois. La deuxième, c'est que l'État puisse émettre des bons du trésor ou des titres à taux d'intérêt nul et à délai continue, non remboursable, et que la Banque centrale les rachète, et du coup, les États ne remboursent pas, en contrepartie desquels les États, du coup, financent une transition un peu plus soutenue dans l'écologie. Et la troisième, ce serait d'annuler carrément, franchement et directement, les titres de dette détenus par les États, dont du trésor en obligation d'État, avec une conditionnalité qui serait qu'en contrepartie, les montants annulés sont réinvestis dans la transition verte. Pour répondre rapidement et à coup de hache à la question.
Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Toubouillon. Je suis porteur de projet. Je suis en train de faire un projet avec le soutien d'Aude Paris et d'une communauté qui, en fait, on va récompenser le fait de remplir ses gourdes aux fontaines d'Aude Paris. Et on va récompenser ce geste éco-responsable grâce à une technologie blockchain distribuée. Et donc, on va faire ça de manière volontaire sur les téléphones portables. Et donc, derrière, on va créer des écritures, des smart contracts. Et donc, derrière, j'ai une expérience avec la communauté avec laquelle je travaille, d'entrepreneur, sur lequel, en fait, on a montré comment, dans la pratique, de bout en bout, créer des contreparties financières type NFT qui correspondent à des comportements engagés, volontaires, des consommateurs qui ont un impact régénératif. On peut aussi, de la même manière, par exemple, récompenser les gens qui ramassent quand ils font du sport, quand ils participent. Donc ça, tout ça, on sait aujourd'hui, on sait l'accompagner de manière volontaire. Donc ça, pour moi, le frein sur lequel je pense qu'on doit pouvoir lever les choses, à travers, y compris des réseaux sociaux, etc., c'est vraiment embarquer les consommateurs à bord du régénératif, leur faire toucher du doigt, leur mettre en place des réciprocités immédiates, avec, y compris plus de pouvoir d'achat, parce qu'il y a moyen de le faire, et c'est ce qu'on est en train de montrer. Et si on arrive à embarquer les consommateurs dans cette dynamique-là, les entreprises qui aujourd'hui, il y en a qui ont quelques-unes, qui vont quand même suivre, parce qu'elles ont besoin de suivre les consommateurs. Voilà, là ils sont. Ça fonctionne dans le monde entier et dans l'écosystème. Aujourd'hui, on a suffisamment d'expérience. En fait, il y a des gens du monde entier qui lèvent la main, qui disent on y va. Et donc, du coup, ça permet de fédérer de manière distribuée des communautés engagées dans le régénératif, dans ces déjà. Voilà, merci pour votre écoute.
C'est un bon exemple juste pour avoir poser justement la question, mais ça ressemble à là. Les contreparties financières avec une bonne action, une action à impact, disons, comment vous les déjà calculez et qui, en fait, les finance, d'où vient l'argent. C'est vrai que c'est exactement, en regardant ça hyper simple, le problème cœur d'absolument tout bonne action, finalement, à impact, même qu'on soit une grande entreprise et qu'on la fasse avec une échelle immense ou quelqu'un dans la rue potentiellement. Et c'est la comptabilité, encore une fois, et le financement.
Je réponds de manière très simple. En fait, on est vraiment. En fait, c'est dans le régénératif, beaucoup d'amorçage, donc d'amorçage local. Donc, on démarre donc, tout petit, puis à l'intérieur, en fait, pour passer à l'échelle. En fait, le fond du concept, c'est du marketing, du marketing de la sobriété. Et dans les budgets marketing, normalement, il y a de la place pour faire ça.
Okay, c'est donc un sujet soit d'image, soit de financement qui serait vraiment un investissement, enfin du coup, pour... mais là, ici, d'image.
L'exemple de Paris.
Oui, de Paris.
C'est important, il y a des entreprises qui ont intérêt à financer le marketing de la
société.
Oui. Pour parler simplement, donc Aude Paris a intérêt à financer l'utilisation des fontaines, les fontaines, c'est vraiment du régénératif, d'accord. Il y a des grandes marques qui ont intérêt quand même à financer avec une pêche et pas de bouteilles en plastique qui traînent partout dans la nature.
Juste, excusez-moi, une question de clarification. En quoi c'est plus régénératif que de prendre de l'eau du robinet?
Non, que de prendre de l'eau du robinet.
Ouais, j'ai. Ouais. Voilà. Pourquoi remplir sa gourde, c'est plus régénératif que de remplir. Remplir sa bouteille à l'eau du robinet, vous pouvez utiliser une bouteille à usage unique. Il y a vraiment une raison fondamentale. C'est moins régénératif, la proximité et le social et l'interconnexion et le lien au vivant sont super importants. Les fontaines, elles ont été faites à Paris en particulier, c'est vraiment un exemple magnifique. Depuis 1850, elles sont au cœur de la régénération de la cité. Et quand si on en prend vraiment conscience, on se rend compte qu'en fait, aller remplir sa gourde à la fontaine, c'est moins pratique que de remplir son robinet chez soi, mais en fait, c'est un impact social, c'est un impact sur le vivre ensemble qui est magnifique.
Ça marche. Moi, j'ai pris le micro pour
pour souligner un petit peu deux éléments qui ont été dit dans le débat à l'instant, dans les minutes qui viennent de passer. C'est d'un côté, on parlait de comptabilité triple, avec le côté financier, mais également les impacts environnementaux et sociaux. Et ça a dérivé vers la façon de comment les valoriser, mais de façon fongible avec du financier, en prenant contrairement leur valeur en tant que, pour nous, êtres humains, en tant qu'environnement et en tant que lien social. Et vous venez de nous présenter votre projet, donc très bien, où c'est l'incentivisation financière qui doit diriger les personnes vers de l'impact. Donc j'ai toujours un problème lorsque un but devient un indicateur, c'est un mauvais indicateur, déjà, et c'est de nouveau de la fongibilité vers du financier. Et on est loin du schéma économie vert foncé dont parlait monsieur tout à l'heure, où c'est carrément le changement des indicateurs, et là c'est le virage de la société vers le tout financier qu'il faut remettre en question, et les économies sont déjà bossées sur d'autres indicateurs globaux, autres que PIB, pour aller vers, dans ce sens-là, mais c'est, voilà, c'est deux points de société totalement différents. Je voulais juste mettre ça en relief.
Moi, c'est Hervé Lecpi, je suis cofondateur de Mina, c'est une plateforme de financement de projets de développement en Afrique de l'Ouest. Je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le côté blockchain, donc ça fait un peu lien avec les questions d'après, et sur le fait que tu disais qu'il faut embarquer les gens pour justement aller vers du régénératif. Oui, il y a un vrai sujet d'embarquement et de marketing, tu disais, mais quand on intègre blockchain dans l'équation, on va faire attention, on en parlait quand on faisait la préparation de cette session, il y a une sorte de gros mot qui est prononcé quand on dit que blockchain, et du coup, il faut embarquer les gens, certes, mais il faut aussi embarquer les gens avec pédagogie. Quand on prononce le mot blockchain, quand on explique qu'il y a de la blockchain derrière, et qu'il y a du NFT, et qu'il y a du token, etc., etc., il faut nécessairement faire attention et prendre en compte que, en fait, ce n'est pas quelque chose qui est connu de tous, ou bien complètement effacer la dimension blockchain de l'équation, parce qu'en fait, il n'y a pas forcément besoin d'en parler, ça reste une infrastructure.
Beaucoup d'acteurs, d'ailleurs, ont fait le choix de totalement omettre, on va dire, la blockchain de leur plaqué de marketing.
Oui, oui, je confirme. C'est ça, c'est la financière, ça. Et qu'est-ce qu'on fait avec une blockchain dans ces fameux projets qu'on ne pourrait pas faire autrement? Parce que c'est aussi ça la question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est une brique technologique fondamentale qui est nécessaire par rapport à la finalité du projet et qui, si on l'enlève, ne fonctionne pas? J'ai l'impression en tout cas que c'est une de la brique.
Je peux peut-être prendre. Du coup, je pense pas que ce soit une brique fondamentale. Il y a pas mal de projets qui existaient déjà avant l'émergence de la blockchain pour avoir un impact positif et éco-responsable. On en parlait aussi tout à l'heure. Il y a en fait des projets même qui se lancent avec une base blockchain et qui en fait pivotent en cours de route. En revanche, je pense que la blockchain a quand même une vertu, c'est cette vertu de traçabilité. Et qui derrière, couplé avec la mesure d'impact, si on arrive à mettre on-chain les mesures d'impact de manière uniforme et sur lesquelles on se sera tous accordés, comme disait Oscar tout à l'heure, ça peut être un excellent moyen de diffuser en fait cette mesure d'impact au plus grand nombre. Je pense qu'en ça, ça permet de faciliter, de traçabiliser encore plus rapidement les flux d'impact.
Je crois qu'Alice avait la parole en
moins. Non, mais vas-y.
Je voulais juste dire, je suis hyper d'accord avec toi, comme quoi c'est pas forcément la base fondamentale qu'on peut additionner. Mais je voulais juste mettre en perspective, en fait, pour l'ingénieur mathématicien que je suis, en effet, c'est une technologie qui est magnifiquement faite. Mais parfois, je trouve ça. Enfin, il faut faire un peu attention à ce que ce ne soit pas une. Enfin, qu'on s'imagine un monde parfait où tout serait on-chain, etc., sans que ça ait une vraie utilité. Parce qu'en fait, la comptabilité, qu'elle soit qu'elle n'ait pas de l'impact et même la tangibilisation de l'impact, qu'elle soit on-chain ou non. Moi, je me pose vraiment la question pour avoir fait les deux. Si vraiment le fait que ce soit on-chain pour le grand public et pas pour les technologues qui sont potentiellement parmi nous, pour le grand public, quand on parle à mes parents qui sont kinésithérapeutes dans le sud de la France, vous voyez, j'ai un vrai doute, c'est ce qui m'était vraiment d'expérience, sur l'apport réel pour communiquer son impact et valoriser au sens large, au sens de la société, de l'utilisation seule de la blockchain comme la seule brique qui permettrait la traçabilité. En réalité, je pense que c'est une brique technologique pour nous, pour les gens qui travaillent. Qui travaillent pour les acteurs entre eux de la certification potentiellement comme un registre, comme un vrai registre, mais pas forcément pour tout le grand public. Et je pense que c'était vraiment le stream que j'ai eu quand on a parlé de pivot, de société, etc. Mais moi, c'est un petit peu ce qui s'est passé.
Moi, c'était juste, je voulais répondre de manière hyper concrète à ta question en quoi la blockchain est fondamentale. Ce que tu viens de dire, Anaïs, le registre, tout simplement. Nous, dans l'univers du crédit carbone sur lequel on travaille, historiquement, il n'existait quasiment pas d'acteurs du crédit carbone français. Et quand on regarde la recherche, en général, le même crédit carbone est vendu à 8 acteurs différents. Nous, la blockchain, pour l'unicité du crédit carbone, c'est fondamental. Alors, est-ce qu'on pourrait le faire de toute manière sans blockchain? La réponse est oui. D'ailleurs, on a essayé de le faire pendant des années. À chaque fois, il y a de la fraude, il y a des scandales, il y a des articles du Guardian, etc. Donc, en fait, il y a un moment, cette technologie à nous, en tout cas chez nous, nous avons un truc très précis qui est ça, qu'on aurait du mal à faire sans. Mais j'ajoute un truc pour aller dans ton sens, c'est qu'en aucun cas, c'est une baguette magique. C'est-à-dire que nous, ça marche parce qu'on travaille avec des porteurs de projets précis sur lesquels on récupère des données précises. Une fois qu'on est, on a Aurélien, notre CTO, qui a écouté un smart contract précis, qui détruit le crédit carbone quand il est transféré. C'est parce qu'on fait les choses comme ça que la blockchain nous est utile. Si on faisait pas les choses comme ça, elle nous serait parfaitement inutile.
Je veux rajouter aussi souvent dans le milieu de la blockchain, code is law. Et moi, en fait, ma promesse dans un milieu où nous, quand on crée Luc, on est en pleine affaire Marco Louis. Donc moi, je parle de là au départ. Donc le smart contract, c'est aussi une façon de dire voilà ce qui va se passer exactement. C'est public, c'est auditable, et je te demande même pas de me faire confiance. C'est confiance dans les maths, et c'est en ça, donc la blockchain, c'est unique. Ouais, on pourrait recoder nous-mêmes une solution qui ressemblerait peu ou prou à ça, avec la cryptographie à l'intérieur pour certifier les transactions. Donc, pourquoi recoder des choses qui existent déjà? Et je me permets aussi de dire, on parle beaucoup de défis, mais pour moi, le truc le plus magnifique qui existe dans le défi, c'est les mécanismes d'automatic market. Maker, qui permettent un vrai marché fluide, sans tiers, sans lever la main et demander à l'AMF quoi que ce soit. Enfin, on peut nous-mêmes déjà dès maintenant traiter du carbone entre nous et décider d'eux et créer des produits financiers. C'est de ça dont on devrait parler. Pas de est-ce qu'il faut qu'on compte machin. Il ne faut pas attendre les autres, sinon il ne se passera rien. C'est ça la beauté du Web3. C'est ça la beauté du Web3. Ça me désole de voir des projets comme Klima.io, peut-être que certains d'entre vous connaissent, qui sont des scams, qui ont généré un flux financier de plusieurs centaines de millions d'euros. Comment on fait pour récupérer ces centaines de millions d'euros pour du fond? C'est ça la vraie question.
Est-ce que, je pense que aussi les premiers qui ont commencé dans l'univers pareil, comme le dit précédemment, ce n'étaient pas des gens qui venaient du monde de l'écologie, c'est des gens qui venaient du monde de la finance. Et je pense que ça, c'est aussi ça qui a fait des scams. Mais, du coup, moi, j'étais en train de regarder sur Wikipédia l'histoire de la comptabilité et de me dire que en fait, c'est super récent et c'est des abstractions. Le premier plan comptable en France était en 1940 quelque chose, je m'en rappelle pas, 42, premier plan comptable général, et du 15e siècle. Et donc, l'idée de pouvoir trader des choses qu'on n'a pas l'habitude de trader parce qu'on les aura comptées d'une façon avec ce fantasme qui, à mon avis, n'arrivera jamais, mais en tout cas, il y a des articles de recherche là-dessus, qu'il y aura une unité
une seule unité de mesure de la nature. Il y a des gens qui essayent de travailler là-dessus. Mais en tout cas, de ces expérimentations-là, eh ben c'est là où on peut peut-être, pour répondre à ce que tu dis, utiliser la blockchain pour ses côtés de registre, pour cette facilité de transaction, d'une façon pour inventer une nouvelle comptabilité. Donc, je sais pas si ça peut être un nouveau mémoire pour quelqu'un,
pas un étudiant. Tu tombes à temps de parole, je le prends. Alors, oui, je souscris à ce que vous avez dit aussi sur le côté irréversible et visible des transactions qui sont menées et pas de double dépense, un peu comme les Byzantins, enfin le problème des généraux byzantins qui évitaient le message contradictoire. J'ajouterais dans la littérature que je lis, parce que contrairement à vous, je ne suis pas un praticien, je reviens au DAO, le nom DAO que tu as cité. Je trouve que dans les DAO, il y a quelque chose d'assez unique comme usage possible du blockchain, c'est l'utilisation du pouvoir de décision. Collectif.
Je ne reviens pas du tout ce principe-là du
forum. Oui,
oui. C'est des scales en particulier qui s'appelle Clima DAO.
Voilà, c'est ça. Celle-là, je ne connais pas personnellement. Mais par contre, les DAO, c'est effectivement une forme organisationnelle qui n'est plus du tout celle qu'on connaît dans l'économie classique. Il n'y a plus de chef, c'est plus vertical, c'est complètement horizontal. Et les participants de la DAO votent pour qu'une action soit faite ou ne soit pas faite. Et ce côté complètement démocratique de la blockchain, on a essayé avec une collègue chercheuse de l'appliquer à la sécurité sociale. On a publié dans The Conversation il y a une semaine un article qu'on appelait le Coticoin au service de la sécurité. C'est juste une expérience intellectuelle, on n'a pas du tout mis en code ou quoi, pour essayer de voir s'il était possible sur compte de cotisation de créer justement un mode de décision complètement démocratique pour que tel hôpital soit construit, que tel médicament soit pris en charge, etc. Voilà. Donc, la pub pour Martin aussi.
Non, mais le truc d'adhérence surtout, c'est le fait qu'on peut faire travailler de façon plus facile différentes parties prenantes qui viennent de milieux différents. Et ça, c'est absolument essentiel dans toute cette nouvelle économie.
Et puis, il y a un autre point qui me semble complémentaire, c'est les algorithmes, en fait. Il y a vraiment ce mécanisme de récompense digitale. Et si on sait l'activer de manière éthique, on rend vraiment un mécanisme de renforcement collectif distribué qui sont extrêmement intéressants, qui peuvent permettre de complètement transformer des processus qui aujourd'hui sont toxiques. Un programme de fidélité, aujourd'hui, moi j'ai pas de problème à affirmer que les programmes de fidélité sont conçus pour faire plus de consommation que dans un schéma régénératif. Ben on est dans le génératif. Donc on a en moyenne 4 programmes de fidélité, chacun dans sa poche aujourd'hui, en France, 12 aux États-Unis.
Pour revenir pardon, sur le sujet de la traçabilité, j'ai l'impression que sur ce sujet, on est parfois un peu la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'avant de se poser la question de la traçabilité de la donnée, c'est en fait quelle donnée en fait, et quelle mesure. Et on sent qu'on n'est pas encore tout à fait d'accord sur quels sont les standards qu'on veut prendre en compte pour les différents projets. Il y a des débats là-dessus. Et qu'en gros, on n'a pas encore fixé vraiment le sujet de la mesure, sauf certains use cases, peut-être sur les films carbone, par exemple. Et que du coup, on est rentré en fait, dans le sujet blockchain par la crise de la traçabilité en se disant en fait, sur la donnée extra-financière, il faut avoir cette traçabilité, avant même d'avoir fixé en fait, le sujet de concrètement arriver bien à identifier, bah, typiquement, on est sur les sujets souvent des émissions éditées, confiance quelqu'un et tech, et donc bah, concrètement, combien d'innovation permet d'éviter en termes de tonnes de CO2, les traduire en indicateurs. Et là, ça c'est difficile, c'est pas encore bien fait. Une fois qu'on aura fait ce job-là, je pense qu'on pourra se poser la question de la traçabilité, de mesurer de tout en bout, en fait, qui en fait, quel investisseur récupère quoi éventuellement, est-ce qu'il y a aussi, ça touche aussi le sujet de la valeur, en fait, parce que derrière, en fait, d'avoir la traçabilité juste de l'information, c'est bien, mais je pense qu'une fois que l'information sera traduite en valeur, là, il y aura un sujet supplémentaire pour la traçabilité.
Bonjour, Charles Lechou, fondateur de Carbon, à la place de marché sur blockchain. On entend parler beaucoup de ReFi, mais la finalité de la ReFi, c'est la santé humaine. Et à partir de ce moment-là, il y a une capacité, et c'est là où il y a le gros enjeu aujourd'hui, c'est de comprendre et de pouvoir certifier l'écosystème et la façon dont l'écosystème en lui-même, que ce soit la biodiversité, soit pris en compte. Et une fois cette biodiversité, c'est quel est l'impact sur l'humain en lui-même, puisque la planète va de facto continuer avec ou sans nous.
Et donc à ce moment-là, c'est de savoir comment il est possible, puisque aujourd'hui, un des actifs environnementaux qu'on est en capacité d'émettre sur les marchés, c'est bien les crédits carbone, c'est de savoir comment ces crédits carbone peuvent inclure au sein même de leur certification, de leur méthodologie sous-jacente, comment ils peuvent inclure la biodiversité et, in fine, l'impact sur la santé.
Exactement ce que j'ai posé comme question. On voit bien qu'il y a une différence entre les cas de, on parle juste d'une mesure d'une donnée, et les cas où il y a un droit défini comme les crédits carbone. Donc, est-ce qu'il y a des efforts aujourd'hui pour, à partir d'une mesure suffisamment définie, parce que j'imagine que c'est de toute façon en vue, être capable de définir un vrai droit, donc à ce moment-là, ça passe forcément par un législatif, on peut transformer ça en droit. Est-ce qu'il y a des pistes de façon de rationaliser des impacts environnementaux qu'on est capable d'envisager de définir comme droit précis?
Alors, on est en discussion pour mettre ça en place, et surtout l'impact au niveau de la santé, et comment on est en capacité de limiter le financement de la santé par le bienfait de l'agriculture régénérative, par ces mécanismes-là, et d'inciter l'État derrière, sur cet argent, de le réinvestir directement dans cette transition environnementale.
Tu reviens du coup sur les coûts évités un petit peu à la société. Et juste pour reposer une question sur ça, où tu dis que ouais, c'est l'État qui reprend, du coup il y a une entité quand même centrale dans ton idée. Et pour reposer là-dessus, d'ailleurs j'ai pas le temps de le dire, pour moi il y a un mécanisme en France qui a des bases, qui marche plus ou moins, mais je bosse pas mal avec eux, donc je peux vous donner un peu l'expérience. C'est pour le cas du plastique, en France, il y a une écotaxe à tous les émetteurs sur le marché. Donc, par exemple, Coca-Cola, qui a mis des bouteilles de plastique sur le marché, il paye une écotaxe, qui est in fine en réalité, qui est portée sur le consommateur. Il y a un vrai sujet là-dessus, mais on va parler de ça. Cette écotaxe remonte dans un organisme qui s'appelle CDO, aujourd'hui, ceux qui ont mis des poubelles jaunes, vertes et bleues en bas chez vous, et qui a pour rôle de favoriser l'économie circulaire, enfin d'abord le recyclage quand ça a été créé, et puis maintenant le réemploi. Et un vrai sujet, ils ont une vraie limite en vrai. On leur reproche tous les jours de ne pas faire assez. Ils ont quand même 1 milliard par an, pardon. C'est 1 milliard par an, ce qui est au d'éco-taxe qui récupère. Et on leur reproche tous les jours de ne pas faire assez, de ne pas sélectionner les bons projets, de ne pas exactement. Et d'autre côté, quand on parle avec eux, et je vous jure que c'est vrai, parce que j'ai fait l'expérience, j'étais avec eux dans ce espace, il y a vraiment des centres de recyclage qui les appellent pour avoir un chèque pour payer leur facture d'électricité. Donc on a vraiment une tension, un organisme central aujourd'hui. Je ne sais pas si je peux me retourner d'expérience, parce que je n'arrive pas à me positionner là-dessus. Du coup, on a vraiment un organisme central qui a un cahier des charges de l'État français, qui récupère toutes les écotaxes et tous les métaux sur le marché, et qui est censé les redistribuer, qui d'un côté les redistribue apparemment mal, parce qu'il y a plein de projets de l'économie circulaire qui ne sont pas financés. Et en même temps, d'autres projets qui, eux, n'ont pas, enfin, qui sont financés mais toujours pas assez, et il y a un vrai sujet. Et pourtant, c'est exactement une comptabilité de coévité qui a été faite à cet endroit-là pour calculer la valeur des écotaxes. Et du coup, bah, tirer cette expérience, ça marche plus ou moins. En tout cas, c'est une méthode par contre de subvention pour le parti financier. Moi, j'ai beaucoup réfléchi. C'est quand même un truc de subvention, donc il y a un vrai truc où Sudéo biberonne l'écosystème sans que jamais quelque chose ne lui revienne, qu'importe la performance réelle, environnementale ou sociale des acteurs financés. Donc il y a un vrai sujet là-dessus, et voilà, je vais donner un autre exemple à grande échelle en France qui se fait actuellement.
Juste pour finir, je vais monopoliser la parole, juste pour finir. On a été, j'ai créé avec mes amis la première association 1901 sur blockchain en France qui s'appelle Clean Planet et qui rémunère les gens qui ramènent des déchets à travers le monde. On l'a financé à hauteur de 2,5 millions d'euros par une tokenisation via Steam, la blockchain Steam. Je ne sais pas si pour certains d'entre vous connaissez. Et on a mis en place ce mécanisme où la problématique derrière, c'est la collecte des déchets dans les pays défavorisés. Où le seul mécanisme de contrôle, et c'est là où, pour revenir au DMRV, de vérification locale, c'est la vraie problématique aujourd'hui, c'est que la distance, cette vérification, elle ne peut pas être faite par blockchain, mais elle peut être faite par la communauté décentralisée.
Donc, en fait, je suis bénévole à l'association La Fresque du Plastique. Le plastique, il faut absolument explorer le cycle de vie du plastique. Et il y a un traité international qui s'appelle le Global Plastic Treaty et qui est vraiment fondamental, qui est en train d'être discuté au niveau mondial. Et les discussions qu'on a ce soir ont leur importance dans ce cadre-là. Et la France essaie de se positionner, mais voilà, je m'arrête là.
Et moi, c'est juste pour répondre à la question de monsieur, dont je n'ai pas le nom, mais hyper concrète, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour valoriser ça? Nous, aujourd'hui, chez nous, par exemple, on a certains de nos clients qui achètent des crédits carbone chez nous parce qu'ils ont cette dimension de traçabilité et locale. Et c'est quelque chose qui peut après aller montrer à leurs financeurs, notamment à leurs banques, pour avoir accès à un prêt à un taux bonifié. C'est ultra concret. Et en fait, ils ont fait le calcul. Donc c'est des boîtes assez grosses, hein, mais tu vas avoir 1000 salariés. Et en fait, ils ont fait le calcul, ils ont regardé, en fait, si j'arrive auprès de ma banque, parce que la banque, elle doit se décarboner pour d'autres raisons en général, mais pour se décarboner, elle doit décarboner ses clients, en fait. Et donc, en fait, très concrètement, financièrement, ça leur rapporte de l'argent, si tant est qu'ils arrivent à démontrer que l'action, elle est locale, elle est sur la chaîne de valeur, etc. Donc c'est pas qu'un simple crédit carbone, il faut prouver plein d'autres trucs. Je trouve que nous, on répond à ce qu'il y a des charges là sur ce segment-là très précis, mais c'est hyper concret et ça fonctionne. On pourrait penser que ce type de mécanisme pourrait être un peu plus généralisé.
Pour rebondir sur ce sujet, au niveau des fonds d'investissement aujourd'hui, et on le voit de plus en plus, alors un peu moins en France, très peu en France, voire inexistant en France, mais en Allemagne, on le voit, aux États-Unis, on commence à le voir, c'est que les entreprises qui sont dans la décarbonation, qui obtiennent un investissement auprès de certains fonds, les fonds viennent financer la certification du crédit carbone. Et c'est inclus dans l'investissement de départ lié par ces fonds d'investissement, puisque elles-mêmes, ça leur permet de suivre aussi leurs mouvements financiers et sur leurs investissements pour tout ce qui est CSRD et autres au niveau international. Donc sur ces sujets-là, on voit de plus en plus de fonds avancer sur la question. Et je pense qu'il y a un besoin très clair d'avoir de la finance traditionnelle avec de la finance régénérative, et que l'un ne peut pas aller sans l'autre, pour une simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, tout a été fait au niveau législatif, au niveau administratif, du moins en France, par cette finance traditionnelle, et qu'aujourd'hui, pour changer les règles, il faut bien utiliser le bon côté de la finance traditionnelle et de mettre... Et ça le permet, la REFI permet l'autosuffisance d'un système sur la finance.
Katia.
Merci. Malheureusement, je dois dire en anglais. Thank you. So we work on the intersection of traditional finance, development finance, and everything decentralization, to improve impact. I just want to say two things. One, the problem with traditional finance and development finance, USAID, World Bank, UN, is that we also have a lot of political, trade, and security interests that go into funding. So by the time they reach people, we also need to remove all these political, trade, and security outcomes, right? And so with DeFi, we are trying to see how can we invest directly into well-being, and how can we use DeFi to unlock impact at well-being level, not only carbon offset, but how can we integrate social health? I'm very interested in health because we work a lot in health finance. Health, cultural, for example, if you work in the indigenous community in Colombia or South Africa, by funding something in health, how does it also contribute or understands the ecosystem? And so for us, there are two challenges. One is that we have a lot of off-chain data that is not on-chain, so we cannot invest or consider. So it means we also need to think about how we think about assets bigger, how we turn social, cultural, health assets of communities into assets that are investable. So that's the biggest thing that we are working on right now. And second, interoperability between off-chain, on-chain. We have tried to create something which is a multi-dimensional impact dashboard. How do you invest into this? And it's very difficult, but we think if we really try to unlock this, this is gonna really create a big change in terms of how we fund impact and think about impact at the individual level and not very narrow how we currently fund impact that is thematic, you know?
Et je rebondis là-dessus d'ailleurs, et pour faire une double question, comment est-ce qu'on mesure aujourd'hui l'impact, et tout particulièrement la finance à impact traditionnelle? Comment est-ce qu'on fait? C'est une question. Ah, je vois Michael qui se...
Je vais
théorie, on pratique en théorie, on sait les méthodes. Ça vient de la philanthropie des politiques publiques, donc c'est des méthodes quanti, quali ou logiques. Sachant que la Rolls-Royce, c'est les méthodes quasi-expérimentales, donc les méthodes type RCT ou les dérivés. Ça, c'est la première façon de faire la poubelle. La deuxième, c'est les méthodes qualitatives, donc vous questionnez vos parties prenantes et vous leur demandez si votre action a un impact. Et la troisième, c'est les méthodes logiques où vous regardez toute une théorie du changement, bloc par bloc, et vous voyez si, comme des dominos, chaque bloc a bien été réalisé. Et donc, du point de départ jusqu'au point d'arrivée, vous pouvez être confiant que vous avez eu l'impact. Et dans les faits, maintenant, en pratique, ils font rien. Les fonds d'impact mesurent juste éventuellement les résultats de leurs entreprises investies. Donc, ils font une mesure de l'impact des entreprises investies. Non, même pas, d'ailleurs, c'est même pas une mesure d'impact, c'est une mesure des résultats des entreprises investies. Ils ne remontent pas à l'impact, c'est-à-dire qu'ils ne font pas du contrefactuel. Et après, ils ne remontent pas à leur impact à eux. Donc, en gros, on n'est nulle part en termes de mesure en ce moment. Sur les fonds d'impact de la finance passive. Impact article 9, c'est pas sur un rapport coronal, mais même ceux qui sont article 9 ne mesurent pas l'impact.
Ou sinon, l'impact serait mesuré si toutes les entreprises à travers le monde ouvriraient leur comptabilité et on connaîtrait tous les facteurs d'émission nationaux au niveau énergétique. Ce qui est aujourd'hui, en termes de base de données, complètement impossible. Puisqu'on ne joue pas sur la même cour que ce soit en France, aux États-Unis ou en Chine.
Ouais, mais il y a des méthodes quand même qui te permettent de reconstituer un groupe de contrôle en fait. Tu as des méthodes statistiques avancées qui te permettent, sans avoir ton alter ego, donc ton double, même s'il n'existe pas, tu peux le reconstituer. Donc, ouais, les économomètres savent le faire, même si les données sont imparfaites.
Juste encore une question de précision. Moi, je suis entrepreneur social, je suis financé par de la finance solidaire. Et tu dis qu'ils ne mesurent pas d'impact parce que c'est du déclaratif de ma part.
Non, non, c'est que.
Parce que moi, je peux t'assurer que je donne des vrais chiffres et qu'en fait, eux, ils en tiennent compte.
Oui, mais c'est pas d'impact, c'est l'enfant. C'est-à-dire qu'ils ne font pas le travail de chercher ton contrefactuel. Que serait-il passé si je n'avais pas été financé?
Bah, je sais pas, moi, je crée des emplois, je crée 10 000 par an, les gens, ils étaient au chômage.
Est-ce qu'ils remontent à leur niveau à eux? Ça, c'est ton impact à toi.
Ouais. Mais tu disais que tu ne mesurais pas mon impact à moi.
Enfin, moi, sur les gros fonds d'impact côté, etc., on a évolué.
Ah non, moi, je parle de la vraie finance solidaire, tu sais, avec un label et tout ça.
Ouais, bah, dans ce cas,
dans
les sous-côtés qu'on a évolué. Et après, juste un petit point. Comment ils remontent à leur impact? Ils font une attribution proportionnelle? Genre, ils ont 10% de l'equity, ils ont 10% de l'impact?
Non. Bah, ils prennent nos chiffres à nous et ils considèrent que ça fait l'atteinte de leur cible à eux.
Donc, ils ont 100% de ton impact?
Ils ont...
Donc, toi, tu as zéro impact. Toi, l'entrepreneur, tu n'as rien.
Moi, je sais qu'il y a l'impact que j'ai.
L'argent,
j'ai de l'argent patient, pas cher, et ouais.
Je confirme quand même le point sur la mesure de l'impact. Je pense qu'aujourd'hui, telle qu'elle est faite, elle est très archaïque. Alors, dire qu'il n'y a rien, c'est peut-être un petit peu extrême, parce que bon, sinon, on va se faire taper sur les toits quand même par certaines personnes. Mais de dire que c'est archaïque et que c'est un système où il y a encore son tableau Excel et du coup très manuel, etc., donc qui est potentiellement à erreur, pas auditable, pas traçable, etc., là, clairement, enfin, il y a aussi le sujet de l'impact washing. C'est un vrai sujet, parce que justement, ça manque de structure, ça manque de traçabilité, ça manque de vérifier l'information. Et je peux peut-être aussi donner un petit exemple qui se passe en ce moment sur le secteur bancaire et néo-banque, où en fait, je pense que vous avez tous entendu parler de se dire « Oui, aujourd'hui, il faut changer de banque, justement, parce que son compte courant a un impact, justement, et aussi a des effets, un équivalent de tonnes de CO2. » Bon, depuis une semaine, ce n'est plus valable parce qu'il y a un article qui est sorti d'économistes qui ont dit non, c'est pas le cas. Mais tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une guéguerre entre le secteur bancaire traditionnel et ce qu'on a appelé les néobanques. Les néobanques qui ont essayé de faire quelque chose en se disant
nous, on voudrait faire passer un message que finalement, vous pouvez mettre votre argent chez nous et on vous garantit que l'argent qui est chez nous va financer que des projets qui sont à impact environnemental, social, etc. Et ils se sont pris un retour de bateau mais monstrueux. Et pourquoi ? Parce que ce manque de traçabilité. Et en fait, les banques ne sont pas des banques, donc elles sont adossées effectivement à des banques traditionnelles. Et là, le problème hyper compliqué, c'est de se dire, bah, d'accord, moi, en tant que citoyen, j'ai mis 1 € sur mon compte courant, en fait, il va financer quoi exactement ? Et ça, c'est un peu le nerf de la guerre de tout le schéma finance traditionnel, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui on sécurise ce sujet et comment est-ce qu'on vient rassurer tout ça. Est-ce que la blockchain peut être une réponse à ça ? Je vais poser ma question.
Alors, je ne vais pas y répondre à temps, mais pour réagir à l'échange qu'il y a eu, pareil, je suis un petit peu d'accord avec toi, peut-être que sans attaquer j'en voulais quand même quelques-uns, et justement des responsables d'impact dans les fonds avec qui on travaille, qui quand même s'y penche fort, pour moi, il y a plus un enjeu de capacité de transparence, et c'est pareil pour moi pour les banques, pour des enjeux politiques, d'image, que même de traçabilité parfois interne, et parfois c'est même, pour le coup, dans les startups financées, évidemment c'est déclaratif, évidemment c'est archaïque, je suis assez d'accord, c'est déclaratif, pas très vérifié, évidemment il n'y a pas 14 cabinets d'audit qui viennent d'auditer l'impact, et sur le terrain, et dans les chiffres, et dans le machin, clairement, mais pour moi il y a déjà des petites initiatives de traçabilité, mais pour moi elles sont freinées immédiatement, que ce soit des néobanques, que ce soit des fonds d'impact, dans des trucs, etc. Elles sont freinées immédiatement par l'obligation de non-transparence d'un fonds d'un secteur financier qui a eu l'habitude depuis historiquement de toujours être complètement opaque et qui en fait parfois sa valeur d'ailleurs aujourd'hui, ce qui est d'ailleurs un truc de grave. Mais voilà, et du coup, y a vraiment, pour moi, c'est plus ça l'enjeu qui pourrait potentiellement pour être répondu pour la blockchain, et c'est une vraie question de est-ce que vraiment. Un jour, quelqu'un dans le secteur financier, un fonds aura le courage de mettre tous ses chiffres, de ses BP à ses déclarations suivantes trimestrielles, aura le courage de mettre ça sur blockchain. Je me pose la question. Oui, ça pourrait être une question.
C'est une bonne question. Non, mais moi aussi, je pense qu'il faut. D'un côté, il y a les acteurs financiers, mais si on parle des entreprises. Aujourd'hui, les grosses entreprises, alors, c'est pas parfait, mais sont quand même obligées de faire des rapports extra-financiers. Et les grosses, et c'est des choses sérieuses maintenant, c'est sécurisé par des commissaires aux comptes. L'air de rien, c'est un changement important. C'est tout récent, c'est cette année. Donc, je vais dire. Oui, mais à la limite, de toute façon, entre rien et faire quelque chose, il y a quand même déjà quelque chose. C'est, je pense qu'il faut être. Il faut être lucide là-dessus. Il y a un deuxième point sur lequel, pour les entreprises, pour les grosses entreprises, c'est loin d'être négligeable, cette histoire de crédit carbone. En fait, en France, on a une particularité, c'est qu'on parle de crédit carbone, mais c'est une toute petite partie des crédits carbone. Une grosse partie, ça s'appelle les CEE, les certificats d'économie d'énergie. Ça n'a peut-être rien à voir, sauf que dans le reste du monde, on le mesure tout ce qui est énergie, les impacts sur l'énergie, parce que c'est le gros du sujet des impacts sur l'énergie, sur la source d'énergie qu'on utilise, on a une façon différente de gérer en France. Et les CE, c'est toute une économie, ça fait circuler beaucoup d'argent entre les entreprises, dans le bâtiment, dans toutes les entreprises. Ce que je veux dire là, c'est qu'on a une vision assez cachée, assez partielle, finalement, de la situation. Alors que aux États-Unis, c'est tellement différent. On est aux États-Unis ou dans d'autres pays, on intègre beaucoup plus cette économie carbone. Donc c'est juste pour dire qu'on fait quand même quelque chose. Effectivement, on est peut-être un peu biaisé en France. Mais
je vais répondre. Oui, c'est différent, mais les CEE, il y a quelque chose que les crédits carbone au niveau du marché volontaire n'ont pas, c'est des subventions d'État. Et à partir du moment où il y a des subventions d'État, ça devient les quotas CO2 qui sont émis sur les ETS via la certification en VAT2. Et à ce niveau-là, malheureusement, l'État, de plus en plus, va réduire ses subventions, puisqu'on n'a plus de moyens en France,
et que le marché volontaire va prendre une énorme partie de tout ça, et que, oui, malheureusement, les crédits d'économie d'énergie, demain, vont devenir des crédits carbone sur le marché volontaire, puisque les subventions n'auront plus lieu.
Oui, mais ça veut dire, c'est des volumes importants qui jouent dans l'économie, et ça a déjà des impacts aujourd'hui des entreprises, pour beaucoup d'entreprises, c'est essentiel sur le résultat.
Pour moi, il y a un truc fondamental, juste que je voudrais préciser, parce que je ne sais pas si c'est très clair. Les certificats d'économie d'énergie, donc les C2E, ne mesurent pas le carbone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la manière dont le schéma a été modélisé, c'est qu'on parle d'économie d'énergie, mais on ne parle pas de quel type d'énergie on a économisé. Et on a un C2E qui a permis d'éviter, par exemple, l'utilisation d'énergie fossile, est comptabilisé de la même manière qu'un C2E, qui a permis d'économiser l'énergie électrique, qui en France est beaucoup moins carbonée, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Mais pour moi, ça rejoint un point qui me trotte dans la tête depuis tout à l'heure quand je vous écoute, c'est que tu as dit, en fait, qu'on n'a pas dit depuis tout à l'heure, 80% du problème, je parle juste de l'impact environnemental, moi je ne connais pas les autres impacts, 80% du problème environnemental il est énergétique, en fait, ce n'est même pas que l'énergie derrière, c'est une question d'énergie fossile. L'énergie fossile, on sait très très bien la quantifier, on sait très très bien la suivre, on sait très bien la tracer. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des énormes entreprises qui sont très riches, parce que justement elles savent faire ça. Donc parfois, moi j'ai l'impression qu'on se cache derrière notre petit doigt en disant ah bah oui, par exemple, un crédit biodiversité, ça va être très compliqué à quantifier, donc on ne peut pas quantifier, donc on peut financer un cadre. Attendez, les gars, 80% du problème, c'est quelque chose qu'on sait très bien tracer et très bien quantifier. C'est juste qu'on n'a pas fait cette gymnastique de lui mettre son poids carbone, et surtout, ça suppose un tel changement systémique qu'en fait, on n'arrive pas à regarder ce changement en face. Pour moi, c'est ça la vraie question. On peut dire pendant des heures qu'on a des problèmes d'indicateurs, mais pour 80% du problème, on n'a pas de problème d'indicateurs. Mais c'est juste que la transformation est tellement énorme que j'ai l'impression qu'on fait un refus d'obstacle. Et c'est un peu mon sentiment. C'est absolument.
D'accord. Est-ce que je pourrais rebondir à ça? Ça m'amène à une question. Moi, je suis Jordan, je travaille pour Classy Décollant. On parle de finances régénératives. Donc, dans le régénératif, il y a un des principes qui est la diversité. Et dans nos travaux, on s'est amené à dire que si il y a un marché, disons, de crédit carbone et qu'on arrive très bien à sourcer, vérifier, mesurer la provenance, dans quelle mesure on peut laisser les mécanismes de marché dicter les lois des échanges. C'est-à-dire que, par exemple, si on laisse les mécanismes de marché, à quel point on risque d'arriver, par exemple, dans une logique d'optimisation vers des produits qui vont maximiser l'empreinte carbone et vont pas maximiser la diversité. Je ne sais pas si ma question est claire. Je peux la reformuler. Donc, du coup, la question, c'est est-ce que vous avez connaissance de mécanismes de diversité qui vont essayer d'apporter la diversité pour essayer de casser un peu cette monoculture imposé par des mécanismes de marché.
En fait, moi je me dis, parce que je travaille particulièrement sur la biodiversité en ce moment, mais je me dis qu'en fait, essayons déjà de faire des mécanismes de marché qui fonctionnent, parce que essayons quelque chose qui puisse améliorer ce qu'on a appris de ce qui a marché et pas marché des crédits carbone et faire en sorte d'avoir une forme de dynamique qui permet d'apporter plus d'argent.
J'ai juste, en fait, on a beaucoup parlé des crédits carbone ce soir, mais en fait, il y a un autre type de crédit qui est très intéressant, je pense, dans la discussion, qui sont les crédits plastiques. Et sur les crédits plastiques, ce que je voudrais partager, quand on dit que 80% de la problématique, c'est l'énergie fossile, en fait, c'est dans nos activités, je suis complètement d'accord. Et en fait, dans notre santé, on a parlé tout à l'heure de notre santé, en fait, la présence de plastique dans nos corps est vraiment quelque chose qui va vraiment changer nos vies, dans la mesure et dans le jour où, dans nos prises de sang, on va avoir un dosage de nos plastiques tous en bas de la prise de sang, qui va nous dire, ben voilà, on a tant de plastique, et à partir de là, il y a probablement des épigénétiques, on va mieux comprendre les liens entre notre santé et les plastiques qu'on a accumulés d'ores et déjà dans notre corps. Et ce problème-là, en fait, on sait qu'on ne va pas pouvoir le régler comme ça, au moins jusqu'à 2100, à travailler pour réussir à renverser la tendance et à trouver les vraies solutions qui marchent. donc on en a vraiment pour un bout de temps. On ne sait pas l'impact qu'il a sur la biosphère, sur nos vies, donc on va apprendre beaucoup, ça c'est sûr. Et les crédits plastiques sont une des solutions. Alors quand j'ai dit crédits plastiques, en fait, les modèles qui arrivent avec les crédits plastiques vont être une des solutions qui vont nous aider à progresser pour pouvoir inverser la plastification de la biosphère et des écosystèmes qu'on est en train de vivre. Voilà, donc c'est pour ça. Et là, je pense que la blockchain, bien utilisée, mais j'entends bien, et comme on est vraiment tous concernés, voilà, c'est une vraie source de réflexion. Je pense qu'on est au cœur de la problématique ce soir.
Juste sur les crédits plastiques, mais je suis en train de chercher plus. Pour moi, c'est une initiative qui a été lancée un peu au moment, enfin, je crois que 5 ans après Kyoto, mais justement dans la chaîne, en disant on va faire des crédits sur les impacts négatifs, enfin, les positifs. Et justement, ça a été abandonné. Pour moi, je cherche une info. Pour moi, ça a été le passage des crédits plastiques à un marché comme le sont celui des crédits carbone. A été abandonné pour moi avant même les accords de Paris, mais vraiment, je me touche à ce que je me passe. Et justement, parce que en fait, le problème était bien plus global et pas centré plastique, mais bien sur l'utilisation en fait, des énergies, des ressources au sens large en fait, de la planète.
Si je peux le permettre, en fait, aussi pour répondre à la question du journaliste, monsieur le journaliste, c'est en fait pour moi, la diversité, en fait, il y a une diversité des blockchains. Il y a une diversité des crypto-monnaies, il y a une diversité des modèles et des solutions. Et donc je pense que je suis convaincu que la biodiversité, elle nous inspire en fait. Il faut absolument qu'on arrive à travailler avec toutes les solutions possibles. Et dans les crédits carbone, je pense qu'il y a, d'après ce que je comprends, il y a plein de crédits carbone, il y a plein de modèles différents, il y a plein d'applications locales différentes. Et je pense que dans les crédits, j'appelle ça les crédits conformité pour la santé, il va y en avoir de multiples formes, et je pense qu'ils vont réapparaître, enfin certains vont réapparaître, j'espère, et avec de l'impact. Et donc pour moi, c'est la réponse à la question valeur ou impact. En fait, pour moi, je pense qu'on va créer des modèles où il y a bien et de l'impact et de la valeur.
Est-ce qu'on pourrait se coucher ? Pour revenir, moi j'ai passé pas mal de temps à Bruxelles sur le sujet de taxonomie verte et de règlement sur justement la décarbonation de l'économie. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que toutes les ONG, tous les mouvements les plus engagés, en tout cas dans la décarbonation, dans la transition, étaient assez réfractaires au crédit carbone et encore plus au crédit biodiversité, sous le spectre de dire en fait, on va monétiser la nature. Et est-ce qu'on peut marchander entre nous la nature comme on est en train de marchander des émissions de CO2? Et je ne sais pas, parce que je ne vais pas m'étaler sur la question, je n'ai pas de réponse. Et comme ça, à main levée, est-ce que vous savez dire oui, il faut y aller avec la blockchain, ou est-ce qu'il ne faut pas y aller parce que c'est une
pardon.
Non.
Non, en fait, pour répondre, je vais dire d'une autre façon, je pense que on parlait beaucoup de carbone, de finance. Sinon, on n'a pas beaucoup parlé de ce que servait cette tokenisation. Le point que tu évoques, qui est très important, effectivement, c'est monétiser la nature, ça n'a peut-être pas de sens. Par contre, c'est le monétiser pour quoi faire, en fait. Et le point, ce n'est pas de le monétiser, c'est surtout d'avoir une capacité de mesure, de l'intégrer dans notre capital. Il y a beaucoup de côté de comptabilité, la comptabilité, mais c'est capital. Ça permet d'intégrer ces externalités et le poids que tu fais porter au reste de la société, toi sur ton action, est-ce que tu es positif ou négatif? Et donc, et ce que je trouve intéressant, moi, dans la blockchain et le fait qu'on puisse les tokeniser, ça permet en fait de révéler la valeur cachée, c'est-à-dire qu'on a la capacité de réifier la valeur à moindre coût, à pouvoir offrir à tout le monde, à tous, sur des petits projets comme sur des gros projets, avoir une traçabilité, une capacité à intégrer dans la comptabilité, avec des vrais actifs, sur ces externalités, pour tous ces actifs intangibles, en fait. La difficulté, c'est comment on matérialise et comment on monétise ces actifs intangibles.
Et peut-être je crois qu'il y a un risque. C'était la spéculation autour de ces activités.
Alors, oui, mais alors, Après, on rentre dans un autre point qui est intéressant dans la blockchain, c'est qu'on est dans une relation, effectivement, identité personnelle. C'est-à-dire que le problème de l'investissement sur les places de marché, un investisseur, on a beaucoup d'investisseurs qui sont des passagers clandestins, qui vont investir sur le marché secondaire. Alors, quand vous investissez en direct, vous savez sur le pote sur lequel vous investissez, vous êtes dans une relation directe entre l'entreprise et vous. Et vous avez donc une responsabilité partagée sur ce que vous allez avoir, ce que vous allez faire. Vous faites de l'argent, et ainsi de suite, des engagements que vous prenez pour tenir des engagements en gérer le développement de l'inverse.
Je voudrais juste faire une promotion demain soir à Calmet House à 19h. Il y a exactement une controverse sur faut-il monétariser le vivant. Et c'est moi qui vais parler devant Tariq Chekchak de l'Institut des Futurs Sociétaires. Donc, yes. voilà, exactement.
Sur cette question-là, on se pose la question, mais c'est déjà monétisé. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, le tissu manager,
on l'a juste pas pricé. Oui, est-ce que c'est mieux de continuer comme ça et on ne price pas et il faut le carbone, c'est un outil formidable pour faire ça.
Mais
la question,
je trouve que le crédit carbone a l'origine dans est censé lui-même être, son prix est censé être fixé en fonction des réalités économiques du projet qu'il finance. C'est nous ce qu'on essaie de faire et ce que plein d'acteurs essaient de faire, ce que l'écrasante majorité du marché sur le crédit carbone ne fait pas, c'est devenir un marché de commodity. Mais ça, on peut dire, on garde ce marché, juste on enlève ce défaut-là. Et par ailleurs aussi, la blockchain nous permet de, et il y a d'autres moyens de faire que la blockchain, mais de ne pas avoir de marché secondaire. On ne devrait pas avoir de marché secondaire sur le crédit carbone. Et si tu règles ces deux sujets-là, si le crédit carbone, son prix, il est vraiment lié à la réalité économique du projet, il n'y a pas de. Tu ne mets pas sur ça, ça ne fonctionne pas comme un marché de commodity, et qu'en plus tu t'assures que c'est un moteur économique immédiat et unique, une solution qu'une fois, tu ne résous pas tous les problèmes, mais une bonne partie, quand même, je trouve, sur la partie spéculation en tout cas.
Je comprends. J'ai pensé qu'il m'a demandé de. Clôturer un petit peu le débat. Bon, j'ai pris le micro, moi j'avais une petite réaction. C'est que je rejoins justement la réaction de la question de monsieur le journaliste qui est posé avec nous, c'est que à partir du moment où on monétise, on range fongible et donc du coup on homogénéise des choses qui n'ont absolument rien à voir. Et ça peut poser un problème en termes de prise en compte de la différence entre les différents écosystèmes par cette volonté de vouloir tout homogénéiser pour arriver, c'est possible, pour arriver à une certaine taille critique pour intéresser ensuite. Les investisseurs, les marchés, ainsi de suite. Donc, bon, je reviens de la veille locale. Bon, c'est pas là-dessus que je voulais clôturer, mais tu as été revenu, donc je vais laisser le mot d'affaire.
Mais c'est une question très complexe, Olivia, que tu vas traiter.
Si vous voulez passer ces messages demain, venez
le voir. Nature-based assets, est-ce que la tokenisation va être un des moteurs de la financiarisation de la nature? Je pense qu'on se pose aussi des questions comme ça. Dans l'écosystème blockchain. Je disais ça tout à l'heure, je ne sais plus à qui, le gros problème de ces conversations ouvertes, c'est qu'on n'arrive pas à les arrêter. On pourrait continuer de discuter encore pendant des heures, mais il y a toutes les bonnes choses ont une fin. Donc je vous remercie infiniment de votre participation. C'était passionnant, je peux vous applaudir. Je vous invite, alors on va couper les micros, donc maintenant on peut parler en mode informel, on n'est plus enregistré, c'est bon.